RFI, 8h à Paris, 10h à Damas, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Diane Berger. On commence en Syrie, 2 semaines après la chute de Bachar el-Assad.
Plus précisément dans la Routa, en périphérie de Damas, un secteur violemment réprimé par le régime pendant la révolution de 2011, aujourd'hui réinvesti par la jeunesse. Nouvelle journée de mobilisation en Serbie. Le mouvement étudiant contre la corruption et l'impunité s'élargit. Les jeunes sont rejoints aujourd'hui par les agriculteurs. Au sommaire de ce journal également, l'état d'urgence renouvelé pour 1 mois en Haïti, la vente du sceptre traditionnel d'un ancien roi du Dahomey suspendu à Paris. Et puis en boxe, Oleksandr Usyk confirme son statut de champion du monde. L'Ukrainien a de nouveau battu Tyson Fury hier soir à Riyad.
Ça fait exactement 2 semaines que Bachar el-Assad a fui la Syrie.
Une page qui se tourne pour l'histoire du pays. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans la Routa, en périphérie de Damas, une région à majorité sunnite très active lors de la révolution de 2011, violemment bombardée par le régime et ses soutiens. Après des années d'oppression, la jeunesse investit les quartiers. Reportage à Douma de Julien Boileau et Oriane Verdier.
Entre une rangée de façades couvertes de balles et la carcasse d'un immeuble effondré, de jeunes hommes s'activent, balai à la main.
Nous avons organisé une campagne de nettoyage entre amis. Personne ne nettoie les rues ici. Avant la chute du régime, nous n'avions pas le droit d'avoir ce type d'initiative, d'agir en communauté. Nous, les jeunes hommes, étions terrés chez nous pour échapper à l'armée.
Quelques rues plus loin, ce sont de jeunes femmes qui travaillent au pinceau sur le mur d'enceinte d'un bâtiment en ruine. Debout sur une chaise, Sidra Al-Jabi dessine un visage.
C'est Mazen Hamada. Il est mort dans les prisons syriennes. Son histoire m'a beaucoup touchée. Il a réussi à fuir la Syrie et a finalement été obligé de rentrer. La photo de son corps mort me hante encore. C'est pour ça que je veux le dessiner. À travers la souffrance, nous allons créer quelque chose de beau. Nous ne laisserons pas nos enfants vivre ce que nous avons vécu.
Pendant des années, les habitants de la Routa et les ruines dans lesquelles ils vivaient étaient isolés du reste de la population. Seuls les résidents avaient le droit d'y pénétrer. Aujourd'hui, la jeunesse affirme vouloir mettre les rancœurs de côté et s'unir au reste des Syriens pour reconstruire le pays. Julien Boileau, Oriane Verdier, Douma, RFI.
Concernant la Syrie toujours, les nouvelles autorités du pays ont nommé hier un nouveau ministre des Affaires étrangères, Assad Hassan Al-Shibani, un proche du chef du mouvement HTS.
Une semaine après le cyclone Chido, Mayotte toujours dans un état de détresse.
L'eau et la nourriture arrivent au compte-gouttes sur le territoire français de l'océan Indien. L'île également confrontée à une pénurie d'essence. Alors comment accélérer l'arrivée de l'aide et quels dons faire en priorité? Les Mahorais installés dans l'Hexagone se mobilisent. Lou Ekal s'est rendu pour RFI dans les locaux de la délégation de Mayotte à Paris.
C'est par une minute de silence pour les victimes du cyclone Chido que la réunion a commencé. La salle est pleine, à tel point que beaucoup doivent rester debout. Parmi tout ce monde, il y a Karim, un jeune ingénieur en mathématiques appliquées. S'il est venu aujourd'hui, c'est pour avoir des informations.
Parce que comme j'étais un peu dans le flou, c'était aussi un moyen d'avoir des infos et savoir aussi ce qui est fait là-bas et ce qui va être fait aussi à moyen terme.
À qui donner? Doit-on fournir à boire ou verser de l'argent? La Fondation de France et la Croix-Rouge insistent. Les associations ont besoin de dons financiers. Les ONG rassurent les Mahorais. Elles sont présentes sur place.
Là, il y a des nouvelles plutôt positives, que les autorités font ce qu'ils peuvent déjà pour essayer d'acheminer l'aide plus près.
Deux Mahoraises discutent à côté de la salle. Elles n'attendent qu'une seule chose.
On a envie de rentrer chez nous pour aider nos familles et voir sur place déjà ce qu'on peut réparer le plus rapidement possible et préparer l'avenir, bien évidemment.
La députée de la première circonscription de Mayotte, Estelle Youssoufa, a fait la demande au gouvernement. Attribuer au plus vite des dérogations pour permettre aux Mahorais de tout l'Hexagone de rentrer près de leur famille.
Un reportage à Paris signé Lou Ekal. Les critiques se multiplient en Allemagne contre les autorités après l'attaque à la voiture Bélier sur le marché de Noël de Magdebourg qui a fait 5 morts et 200 blessés. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur est un médecin d'origine saoudienne aux positions complotistes et islamophobes, proche parfois des positions du parti d'extrême droite AFD. Son profil avait déjà suscité de l'inquiétude et des alertes. Il pourrait avoir agi car il reprochait à l'Allemagne son mauvais traitement des réfugiés saoudiens. quotidien.
En Serbie, la contestation portée par les étudiants s'intensifie.
Tout est parti de l'effondrement d'un auvent à la gare de Novi Sad qui a tué 15 personnes il y a un peu plus d'un mois. Depuis, aucun responsable n'a été traduit en justice. Alors, des dizaines d'universités se sont mises en grève. Un mouvement rejoint par les lycéens qui réclament l'ouverture d'une enquête et plus largement la fin de la corruption sous la présidence d'Aleksandar Vučić. Aujourd'hui, ils sont ralliés par un nouveau groupe, les agriculteurs. Alors, le pouvoir tente d'étouffer le mouvement. Il accuse les étudiants d'être payés par l'étranger. Des reproches qui n'éteignent pas pour l'instant la protestation, souligne Milan Nikolic, sociologue à Belgrade.
Ce régime est décrit comme une dictature de manipulation. Il existe en Serbie quelques médias libres, mais ils sont limités et sous constante pression. La grande majorité est sous contrôle et les manipulations du régime y sont omniprésentes, ce qui marche chez les moins éduqués, les personnes âgées et dans la population rurale. En revanche, ces manipulations ne fonctionnent pas chez les jeunes, qui sont plus éduqués et qui voient plus clairement ce qu'il se passe. Les jeunes sont interconnectés, utilisent leurs portables, les réseaux sociaux. Ces manifestations sont menacées tant que le pouvoir réussira à tromper la majorité de la population qui vote pour ce pouvoir, qui les trompe avec ses promesses. Mais quand ces manipulations cessent de fonctionner, le pouvoir recourt à des menaces qui dégénèrent en violence. Les étudiants font en sorte de décider de leurs actions dans des assemblées générales. Il n'y a pas de leader qui pourrait être exposé et devenir la cible du régime, être agressé ou emprisonné, comme c'était notre cas en mai 1968.
Milan Nikolic, il répond aux questions de Jelena Tomic. Nouvelle remise en cause de TikTok sur le continent européen, l'Albanie va interdire l'application pour au moins un an. À partir de début 2025, décision prise un peu moins d'un mois après la mort d'un adolescent dans une rixe liée à un conflit sur les réseaux sociaux.
Le gouvernement haïtien renouvelle l'état d'urgence sécuritaire pour un mois de plus.
Il vaut sur l'ensemble du territoire et il va donc durer jusqu'au 21 janvier 2025. Mesure exceptionnelle pour faciliter les diverses interventions des forces de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité et pour contrecarrer les gangs armés. Mais l'efficacité de cet état d'urgence suscite des réactions contrastées chez les citoyens de la capitale, rencontrés par notre correspondant Peterson Luxama.
Pour beaucoup, cette mesure est un signe que l'État cherche à reprendre le contrôle des zones dominées par les gangs. Sephora, étudiante à l'Université d'État d'Haïti, se dit optimiste.
Selon moi, c'est une très bonne décision. Si le gouvernement utilise l'état d'urgence correctement, cela nous permettra de mobiliser plus de ressources et de moyens pour combattre les gangs.
Cependant, d'autres se montrent sceptiques face à ce qui pourrait n'être qu'une répétition des mesures passé à l'image de Jonathan Gédéon, économiste de formation.
Je suis très pessimiste quant à l'état d'urgence décrété par le gouvernement. De nombreux états d'urgence ont déjà été décrétés par le passé dans le pays, mais nous constatons que la situation ne fait que se détériorer.
Ce n'est pas Misuel Timothée qui dira le contraire. Selon lui, ces mesures n'auront vraiment aucun effet dissuasif tant que les autorités ne manifestent pas une volonté réelle de combattre les gangs.
Je suis très sceptique par rapport à tout ce que le gouvernement prône en ce qui concerne cette situation chaotique dans le pays. Je ne vois pas la volonté du côté des autorités de l'État pour mettre un terme, pour stopper les gangs.
Dans la foulée, la police nationale d'Haïti assure avoir renforcé ses dispositifs pour protéger la population à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais pour de nombreux citoyens, seule une action durable contre les gangs pourra réellement ramener la sécurité. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
RFI 8h09. À Cotonou, le Bénin obtient la suspension de la vente en France de la récade du roi Béhanzin.
Cette récade, c'est une sorte de sceptre traditionnel en bois, propriété d'un ancien souverain du Dahomey. Il aurait été offert aux troupes coloniales à la fin du 19e siècle, volé, disent d'autres versions. Cette récade s'est en tout cas retrouvée sur le catalogue d'une vente aux enchères prévue à Paris vendredi et retirée à la dernière minute, Florence Maurice, à la demande des autorités du Bénin.
Selon des sources officielles, c'est bien la présidence béninoise qui a réclamé avec succès que la récade soit retirée des enchères parisiennes. La vente de l'attribut royal était annoncée ce vendredi après-midi à l'hôtel Drouot, mais l'événement suscitait des remous. Le matin même, ce vendredi sur RFI, Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation d'Art Zinsou, s'en émeut. car selon elle, la récad en question n'a pas été offerte aux troupes coloniales mais bien pillée et devrait donc être restituée au Bénin au même titre qu'une vingtaine d'œuvres rendues par la France en 2021. Juste avant la vente, la présidence béninoise réagit. Son chargé de mission sollicite en urgence l'appui du service des musées de France. Dans la foulée, la maison de vente Millon reçoit un appel du ministère français de la Culture lui demandant de retirer la récad de la vente. Ils n'ont pas autorité pour le faire, mais c'est de la diplomatie, commente un cadre du cabinet Millon. C'est la dernière vente de l'année, nous n'avons pas voulu aller au bras de fer, explique-t-il. Avec l'accord du propriétaire, dont l'identité n'est pas publique, l'objet est donc retiré du catalogue, mais il est toujours à vendre, précise cette même source. Le Bénin pourrait ainsi décider de se porter acquéreur ou de négocier avec Paris un mécanisme de restitution.
Florence Maurice, le patron de la boxe dans la catégorie poids lourd, c'est bel et bien Alexander Usyk.
Oui, l'Ukrainien n'a pas laissé au Britannique Tyson Fury la possibilité de prendre sa revanche. Comme il y a 7 mois, celui qui est déjà détenteur de 3 ceintures mondiales s'est imposé au point lors d'un nouveau combat en 12 reprises organisé à Riyad en Arabie Saoudite. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Diane.
Alexander Usyk a donc su résister à un adversaire plus entreprenant que la première fois.
Oui, Tyson Fury est arrivé devant les 18 000 spectateurs de la King Kingdom Arena en costume de Père Noël avait pourtant promis de ne faire aucun cadeau au grand moustachu de Simferopol. Tenu à distance en début de combat, Usyk a fini par accélérer le rythme dans la 3e reprise, se montrer plus agressif et plus précis au fil des minutes. Fury avait beau enchaîner les coups, il ne parvenait pas à faire une différence, s'exposant même à un crochet de l'Ukrainien vers la fin du duel. Au final, c'est bien le tenant des titres qui a fait la plus forte impression de la part des juges, prolongeant ainsi à 37 ans son invincibilité à 23 combats et sa domination dans une catégorie reine qui n'était pas la sienne au début de sa carrière professionnelle après son sacre olympique à Londres en 2012. Ancien lourd léger, il a enfilé toutes les ceintures mondiales des lourds les unes après les autres, devenant après sa première victoire contre Fury le 18 mai dernier le premier champion unifié depuis le Britannique Lennox Lewis en 1999. Le redevenir après avoir dû abandonner le titre IBF fin juin, c'est à peu près désormais la seule perspective motivante qui s'offre à lui.
Merci beaucoup Christophe Diremzian. Et puis à l'approche du nouvel an, l'un des plus célèbres dictionnaires français, le Robert, fait le bilan des mots les plus recherchés sur sa version en ligne par les internautes. Et dans le top 10, Sophie Torlotin, on retrouve surtout des termes liés à l'actualité.
Sur la première marche du podium, on trouve un mot venu de l'antiquité grecque, hubris, H-U-B-R-I-S. Ce terme qui désigne le sentiment d'orgueil qui pousse l'être humain à la démesure et donc à sa perte, est dernièrement souvent utilisé dans les médias. Les internautes en ont recherché le sens au moment de la dissolution, car les éditorialistes politiques l'utilisent beaucoup.
Les proches d'Emmanuel Macron décrivent un homme assez susceptible et rancunier, qui n'aime pas qu'on lui dise ses vérités, comme l'avait fait Gérard Collomb en le mettant en garde contre l'hubris du pouvoir, le manque d'humilité.
Les internautes francophones ont également consulté le mot « beeper » suite à l'explosion de ces appareils des membres du Hezbollah en septembre dernier, ou bien encore les termes « féminicide »,« cloporte » ou « vérole », mais aussi un mot rare « nyctalope » au cœur d'une polémique scolaire, comme le relate l'humoriste Tanguy Pastureau.
Un enfant HP âgé de 5 ans a utilisé le mot nyctalope devant sa maîtresse qui a cru que c'était une insulte. Alors que le gosse assistait à un cours sur les animaux qui voient la nuit, comme le chat.
De l'intérêt, même lorsque l'on est enseignant, de toujours avoir le réflexe de consulter un dictionnaire.
Sophie Torlotin du service culture de RFI. Il est maintenant 7h13 en temps universel, l'heure de la suite de RFI Matin. Merci. Avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Diane Berger, à tout à l'heure. RFI Matin, 3e et dernière heure. La suite, c'est un nouveau journal Afrique dans un peu plus d'un quart d'heure. Et un nouveau point sur les sports, les éliminatoires du CHAN 2025, dans une demi-heure. À suivre d'ici là l'actualité politique en France et les répliques du séisme de la motion de censure il y a 2 semaines. On parle ce matin du Rassemblement National. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Avec vous Catherine Potet, le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche et à la une, la première page d'histoire du 21e siècle.
Et cette page d'histoire, c'est celle que nous avons vécue ces 25 dernières années, car comme nous le signale le Nouvel Obs, avec 2024, ce n'est pas seulement une année qui s'achève, c'est le premier quart de ce siècle qui touche à sa fin. Le temps d'une génération, l'humanité a fait son entrée dans le 3e millénaire et tout est allé si vite qu'il n'est pas inutile de se retourner pour examiner le chemin parcouru. Et à feuilleter les pages du Nouvel Obs, on est quelque peu pris de vertige. Ce premier quart de siècle a d'abord été marqué au fer rouge par le 11 septembre 2001 qui a terrorisé l'Amérique et le monde. Puis il y eut l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, l'avènement de Vladimir Poutine, les printemps arabes, Fukushima, les attentats de 2015 en France, le Brexit, le Covid, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et plus près de nous le 7 octobre 2023, la guerre à Gaza et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il y eut aussi la vague MeToo, l'avènement des réseaux sociaux et des smartphones.
Et ce n'est pas tout, rappelle le Nouvel Obs.
On se souviendra enfin, ajoute l'hebdomadaire, que nombre d'humains étaient tenaillés par une angoisse profonde, celle de la disparition possible de notre humanité, éradiquée de la surface d'une planète qu'elle-même a rendue invivable. De là à penser que c'était mieux avant et que le monde d'hier était plus enviable, il n'y a qu'un pas que le Nouvel Obs se garde de franchir. Bien sûr, nous devons aujourd'hui affronter nombre d'épreuves, nous dit-il, mais il faut le faire sans pleurer sur la mort d'un temps qui ne reviendra pas, en regardant l'époque comme elle est pour en comprendre les enjeux, en déjouer les pièges et y dénicher les motifs d'espoir.
Des motifs d'espoir qui font parfois défaut, Catherine.
C'est ce que l'on se dit en parcourant les articles de la presse du dimanche au sujet de Mayotte, 9 jours après le passage du cyclone Chido. C'est la ruée vers l'eau, nous dit la Tribune dimanche, alors que l'eau potable fait encore souvent défaut. L'envoyé spécial du journal a rencontré une femme dont la cabane a été détruite et qui dort avec ses 4 enfants sous un toit de fortune en tôle soutenu par 2 barres de fer. Sur le sol boueux, poursuit la Tribune dimanche, elle désigne ce qui lui reste pour survivre. Une eau saumâtre récupérée dans une flaque et un sac de riz moisi par l'humidité. Mes enfants pleurent tout le temps, se plaint cette Mahoraise. Ils me disent « Maman, on a faim mais il n'y a plus rien, on a besoin d'aide ». Notons que dans le journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau assure que 90% de la population sera reliée à l'eau courante d'ici ce soir.
Le cyclone Chido, catastrophe au bilan toujours indéterminé.
Le bilan officiel est de 35 morts, mais on sait que la réalité est tout autre. Où sont ceux qui manquent à l'appel, se demande aujourd'hui en France Dimanche, qui poursuit. Les services de l'État l'admettent, le nombre de morts comptabilisés jusqu'ici n'est pas en adéquation avec la réalité des 100 000 personnes qui vivent dans un habitat précaire. Habitat précaire, un euphémisme pour désigner les bidons ville où les clandestins pourraient avoir payé un lourd tribut, estime le journal. Mais faire le recensement des morts semble impossible. Saïd Omar Ouali, sénateur de Mayotte, s'indigne. Il n'y a pas eu jusqu'ici de recherche des survivants dans les décombres. Comme c'est le cas dans toutes les catastrophes, je n'ai jamais vu ça. Les gens ne se sont pas évaporés, ajoute-t-il. S'ils ne sont ni dans les hôpitaux, ni dans les centres de refuge, ni dans les familles, où sont-ils? L'élu mahorais semble penser que nombre de victimes sont encore prisonnière des décombres. Il évoque aussi les morts non déclarées.
Et puis Catherine, la fin de ce premier quart de siècle est également marquée par la situation en Syrie.
Quelques jours après la chute de Bachar el-Assad, le point s'est rendu à Palmyre, oasis historique dans le centre du pays qui a, nous rappelle l'hebdomadaire, subi la terrible répression du régime d'Assad, la loi des djihadistes de Daesh, mais aussi l'occupation des soldats russes et des miliciens chiites, iraniens, irakiens et afghans. Puis récemment, les bombardements de l'aviation israélienne sur un quartier proche du siège des services de renseignement. Les envoyés spéciaux du point ont assisté à l'arrivée des rebelles syriens, originaires de Palmyre, qui célèbrent en fanfare leur retour au bercail. Rebelles qui doivent désormais s'entendre avec les hommes d'Al-Julani, le nouvel homme fort de Damas. L'avenir est incertain. À Palmyre, plus encore qu'ailleurs, conclut le point, les lignes sont mouvantes.
Catherine Potet, merci beaucoup, bon dimanche.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, et aujourd'hui on continue d'évaluer les conséquences politiques de la censure votée contre Michel Barnier il y a 2 semaines. On se penche sur le Rassemblement National. Avec vous Raphaël Delvolvé, bonjour.
Bonjour.
Marine Le Pen n'affiche aucun regret.
Non, elle se dit elle-même capable de recommencer avec François Bayrou, avec lequel elle repart sur les mêmes bases qu'à la rentrée. Tu me respectes, je ne te censure pas a priori. Un vœu en partie exaucé, Marine Le Pen a été reçue en premier lundi à Matignon pour un cycle de consultations organisé par le tout nouveau Premier ministre. la voilà consacrée, au moins symboliquement, comme la principale force d'opposition, puisque son parti n'a en revanche pas été consulté pour la seconde réunion organisée par Matignon. C'était jeudi et c'était cette fois pour constituer le prochain gouvernement. Ce qui lui sied bien, hein, cette place de opposante. Elle l'avait dit elle-même lorsque quelques jours après la censure, le président avait convoqué tous les partis sauf la France Insoumise et le Rassemblement National. Nous sommes, je cite Marine Le Pen, la seule force d'opposition. Ça fait penser d'ailleurs à une certaine Giorgia Meloni en Italie, elle aussi d'extrême droite. Elle avait sciemment fait le choix il y a 2 ans de ne pas participer à un gouvernement d'union nationale dirigé par Mario Draghi. On connaît la suite, elle a remporté les élections et s'est emparée du pouvoir.
Est-ce donc pour mieux s'affirmer dans le paysage politique que Marine Le Pen a appuyé sur le bouton le 4 décembre ?
Nul n'est dans la tête de Marine Le Pen, mais on perçoit quand même depuis la censure une forme de jubilation dans les mots et sur le visage de la leader d'extrême droite. Cette marginalisation par les autres partis semble faire partie du plan. C'est même un retour aux sources pour le RN, anciennement FN, qui doit sa progression constante dans les urnes à son inexpérience du pouvoir. Vous savez, le fameux « on n'a pas essayé ». Difficile non plus de ne pas y voir un moyen politique d'influencer les juges qui auront le 31 mars prochain la lourde tâche de condamner ou non Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire.
Et précisément, en raison de cette menace, Raphaël, n'aurait-elle pas non plus intérêt à une élection présidentielle anticipée ?
Eh bien ça aussi, c'est une évolution notable chez Marine Le Pen depuis la censure. Bien qu'elle n'appelle pas ouvertement Emmanuel Macron à la démission, elle ne cache plus se préparer à une telle éventualité. Elle l'a dit cette semaine dans le journal Le Parisien, « Je me prépare par précaution ». Compte tenu de la fragilité du président. Les membres du RN ne cessent d'ailleurs de qualifier, je mets les guillemets, le chef de l'État comme l'élément perturbateur de la crise politique actuelle. Alors nous sommes encore loin d'une démission d'Emmanuel Macron. L'intéressé rejette cette hypothèse, mais pour le moment, dans les sondages, Marine Le Pen ne souffre nullement de la censure. Elle obtiendrait, accrochez-vous, entre 36 et 38% des voix au premier tour si une présidentielle avait lieu cette semaine.
Raphaël Delvolvé, merci beaucoup. Et dans Chemin d'écriture ce matin, un nouvel exemple de cette nouvelle génération d'écrivains et d'écrivaines qui renouvelle la littérature française en y faisant entrer de nouvelles thématiques et de nouveaux personnages. On vous a parlé cette année de Diaty Diallo, de Raphaël Redd. Voici Anouk Chavelzon et son premier roman, Le Bleu n'abîme pas, l'histoire d'une jeune fille métisse confrontée au fantasme d'exotisme de ses congénères. Elle nous en parle avec Tirtan Karchandin.
Le bleu n'abîme pas, voici un titre de roman peu banal. Anouk, vous pourriez nous expliquer d'où il vient ce titre ?
J'ai choisi ce titre d'abord parce que au cours de l'écriture du roman, j'ai lu Beloved de Toni Morrison, personnage de Baby Suggs, qui à un moment dit que s'il y a bien deux choses qui sont inoffensives dans ce monde, c'est le bleu et le jaune. Et moi, ça me parlait beaucoup dans ce roman où je tisse la thématique des couleurs. Et l'un des premiers textes que j'ai écrit, c'est l'ouverture du roman, qui commence avec beaucoup de bleu. Et ça faisait sens pour moi de donner à cette couleur une place également dans le titre. Le bleu, dans le roman, il sert à recouvrir toutes les émotions néfastes qui ressortent pour le personnage. Et le personnage principal du roman, au début du roman, vit une agression qui fait ressurgir et remonter plein de questions concernant ses origines, puisque la question première posée par l'agresseur, c'est « tu viens d'où ?». Le bleu, ça représente une forme de déni. Et le personnage, progressivement, se rend compte aussi qu'il faut laisser émerger d'autres couleurs. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de couleurs qui sont décrites et que le rouge est là symboliquement aussi pour représenter une autre force et plus violente, mais qui a aussi des aspects de plus positifs, une manière de guérir.
Que raconte votre roman ?
Pour moi, c'est l'histoire d'un personnage qui se réapproprie son histoire. À travers 3 moments clés, il y a une première partie qui est fragmentée, mais avec 2 lignes qui se répondent en permanence. Il y a la scène de l'agression et des souvenirs qui sont suscités par ce moment de l'agression, et donc l'agression est morcelée. La deuxième partie, c'est une partie qui est plus linéaire, où on suit un personnage sur une journée. Dans la troisième partie, on retrouve une forme de narration fragmentaire, celle d'un entretien que le personnage retrouve de son grand-père maternel nigérien qui parle à la télévision, un rêve que le personnage fait de ce grand-père. Ces 3 moments qui sont progressivement apparus comme les trois moments que j'avais envie d'écrire pour ce personnage. C'est un roman que je voulais très visuel, au sens où il y a beaucoup d'images, et l'image du tissage ou de l'entrelacement qui fait référence aussi à ces lignes mêlées du métissage.
Ce métissage qu'incarne votre héroïne Luna. Luna, c'est vous, non ?
C'est un alter ego. Ça me tenait à cœur que ce soit pas seulement moi. Pour moi, c'était quand même important de m'extraire de détails familiaux pour faire personnage. Moi, ce que je voulais, c'était prendre des libertés par rapport à moi, ce que j'ai vécu, pour faire une histoire. C'est pour ça que c'est écrit à la seconde personne du singulier. Cette seconde personne du singulier est apparue comme une manière de créer une voix singulière.
Il n'y a pas beaucoup de personnages de métis dans le corpus littéraire français.
En tant qu'adolescente et jeune femme, j'ai eu du mal en fait à m'identifier à des personnages de littérature. Je me suis identifiée à des émotions, je me suis identifiée à des situations, mais rarement à la réalité physique des personnages que je rencontrais au cours de mes lectures. Et c'était une manière de remédier à ça en créant ce roman où on représente un corps métissé, racisé, qui vit des agressions verbales et physiques, mais qui est aussi fière, en fait, d'où elle vient.
Tirtan Karchanda et l'autrice Anouk Chavelzon pour son premier roman « Le bleu n'abîme pas ». Bientôt 7h30, en temps universel, avant le journal Afrique, on part à nouveau à Lyon dans notre reportage culture. La Biennale d'art contemporain, c'est 78 artistes qui continuent pour encore 2 semaines avec le thème de cette année, les voix des fleuves. Et l'artiste Shiva et la multiple qui nous plonge dans une œuvre immersive au fil de l'eau. Reportage José Marigno.
Alexia Fabre, directrice des Beaux-Arts de Paris, est la commissaire invitée de cette 17e édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon. En proposant le thème « Les voies des fleuves », la maîtresse de cérémonie entend célébrer l'accueil de l'autre.
C'est une sorte de tonalité que l'on propose aux artistes, c'est le sujet des relations à l'autre, des relations à notre histoire, mais aussi à celle des autres. Chaque artiste a interprété ce sujet en y amenant le cœur de l'œuvre de chacun. Tous les artistes ont eu à cœur de proposer des espaces de rencontre, de rassemblement, pour que le public partage une expérience.
Durant notre visite, on ne peut pas dire que tous les créateurs ont respecté ces consignes, à l'exception de Shiva et la multiple. C'est comme ça que cet artiste pluridisciplinaire de 31 ans se définit. Née en Nouvelle-Calédonie, passée par les Beaux-Arts de Mexico, elle crée une œuvre autour des fleuves et c'est dans un bruit d'eau qu'on entame son parcours.
On entend l'eau du fleuve Congo, du fleuve Douro, du fleuve Sénégal. Mon travail, c'est de traverser les différents fleuves dans le monde pour comprendre cette grande entité fleuve qui est à la fois politique, économique, spirituelle et poétique.
Le tout évoque l'effacement des frontières géographiques. Dans cette salle aux couleurs flashy, les murs sont recouverts de ces photomontages qui flirtent avec le divin et les rêves.
Il y a le cycle de la lune, il y a beaucoup de travail du coup de composition emojique que je fais sur mon téléphone qui sont des tambours sacrés, chacun ayant sa personnalité et sa vibration. Au milieu, on a une fiole, il y a des gouttes des différents fleuves que j'ai traversé. On a Liba qui est la représentation de cette entité fleuve. Et aussi on a des images des différentes offrandes que j'ai effectuées pour ces différents fleuves.
Se concentrant sur un conte initiatique, sa création la guide donc sur les bords des fleuves du monde où elle récolte des calebasses porteuses de tradition.
La calebasse, j'ai été initiée par Kaliman, un maître des traditions bushinengue en Guyane française. Et aujourd'hui je fais partie de ce maillon de la chaîne de savoir-faire. Puisqu'aujourd'hui, c'est à moi de transmettre la puissance, la grandeur qu'a la calebasse et l'importance aussi des fleuves, puisque chacune des traversées m'apprend quelque chose et finalement me transforme moi-même en fleuve à bord de ma calebasse.
Traversant le temps et l'espace, l'œuvre de cette jeune artiste mêle les mondes et les univers. Ses nombreux voyages font de Shiva et la multiple une entité plurielle qui, à travers le spirituel, cherche à révéler le réel.
José Marigno pour notre reportage culture à la Biennale d'art contemporain de Lyon, c'est jusqu'au 5 janvier.
RFI à Cluj, 91.7 FM. Le goût du monde, Clémence de Navy.
Il y a les boulettes et le ravioli, sorte de boulettes habillées d'une pâte comme un smoking. C'est ultra simple à cuire. J'ai pas dit que c'était facile à faire, hein. Universel, le genre de plat qui se fait à 12 au bas mot pour 1 ou pour 50. Ravioli tout un monde, tout à l'heure, à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde.
avec Clémence Denavy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.
Appelez-nous, exprimez-vous. Nathalie Amar.
Une semaine après le passage du cyclone Chido, le chantier de la reconstruction de Mayotte s'annonce colossal. Lors de son déplacement dans l'archipel, Emmanuel Macron a fait face à la colère des sinistrés. Que vous inspire la réponse de l'État français? Les mesures annoncées sont-elles à la hauteur de la catastrophe?
33 9 693 693 70.
Nathalie Amar, avec vous au téléphone, lundi à partir de 8h10 TU.
RFI.